Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Et bien il est 13h21 et aujourd'hui exceptionnellement émission en direct. C'est un peu l'été, on bouscule un petit peu nos programmes. Et puis surtout ce soir en fait il y a un vernissage qui va se dérouler à la Galerie de l'Est. Et bien pour en parler j'ai trois invités avec moi. J'ai Daria, la propriétaire de la Galerie de l'Est. Bonjour Daria.
Bonjour.
Bienvenue encore une fois puisqu'on s'était déjà vu de nombreuses fois à la radio et notamment à la Galerie.
Ouais, merci pour vos invitations.
Et donc là exceptionnellement c'est pas des artistes de l'Est qui seront présents, enfin l'Est, si on fait un grand tour du monde, on revient à notre point de départ, donc ça pourrait être l'Est très très lointain. On est en compagnie de Jean-Charles Toulec et de Pierre Riolet, bienvenue à tous les deux.
Merci. Bonjour.
Donc
merci.
Vous n'êtes pas de l'Est, c'est sûr?
Non, on ne sait pas, par rapport à Compiègne, il y a beaucoup de choses qui sont à l'Est.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Deux artistes originaires de Picardie, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça?
Ouais, non, ouais. Pour ma part, moi je suis plutôt au nord de Paris, nord-est, okay. Comme ça pourrait être raccord avec Daria.
Et moi, Picardie.
Ouais, de Mélicoque, mon Mac.
Mélicoque, oui.
Mélicoque, ouais, qui est tout proche d'ici. Quoi.
Ouais, exact.
On reparle un petit peu de la galerie. Du coup, la galerie, on fait un petit point un petit peu sur savoir ce qui s'est passé toute cette année, les artistes qui vont être en préparation à la rentrée.
Ouais. Donc on s'est vu pour la dernière fois, c'était l'exposition d'Evgenia Buravlova, je crois.
C'est ça.
Donc c'était la peinture réaliste sur la nature. Donc ensuite on avait que des artistes français finalement. Donc Evgenia c'était la dernière artiste depuis de l'Est pour cette saison-là. Donc on a présenté aussi le travail de Catherine Boulot-Adam. Donc c'était les œuvres monochromes sur l'enfance, sur les dessins d'enfants. Avec la technique de monotype souvent. Et après, on est passé en photographie avec Stéphane Spack, qui vient de Strasbourg. On a fait une très belle exposition autour de ces paysages et ces natures mortes qui ont beaucoup impressionné.
Et le public a suivi, du coup, tu as réussi à avoir une nouvelle clientèle. Est-ce que tu as pu détecter des collectionneurs compiègnois ou ailleurs peut-être?
Ailleurs, quand même pas. Donc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de touristes dans la ville. Donc, ouais. C'est plutôt les habitués qui viennent souvent voir nos expositions. Mais après, selon le thème, il y a toujours les nouveaux gens qui viennent pour découvrir quelque chose qui leur est proche.
Habituellement, je crois que l'année dernière, c'était fermé au mois d'août. La galerie était fermée, non?
Ouais.
Du coup, donc, là, cette année, le but, c'est d'ouvrir aussi pour peut-être des potentiels touristes. On a vu que le petit train compiénois est arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de personnes âgées à Compiègne. Donc, il ne sera pas là au mois d'août. Donc,
Non, mais nous aussi, on ne va pas travailler au mois d'août. Donc, cette exposition, elle commence aujourd'hui avec le vernissage à 17h. C'est le 11 juillet et on travaille jusqu'à 10 août.
Okay.
Et après, donc, ça va être aussi une petite pause avant la rentrée.
Tous les deux, ce qui vous réunit un petit peu, c'est l'architecture, si je ne dis pas de bêtises. Et ça serait plutôt... Alors, on voit un petit peu du street art, mais c'est pas vraiment du street art, puisque est-ce que vous exposez dans la rue? Est-ce que vous faites des œuvres dans les rues?
Ah. Alors, directement dans la rue, non, j'interviens pas sous forme de graphe, moi, dans la rue. Par contre, la rue est mon sujet, c'est-à-dire que l'urbain est mon sujet, c'est en effet, puisque je travaille plutôt autour du contre-jour, hein, c'est un sujet qui est assez vaste, que je traite en urbain, mais pas que, parce que je cherche à ouvrir le champ des possibles, donc ça... Et je trouve que notre travail ensemble avec Jean-Charles se marie pas mal parce que moi je fais des choses qui sont assez comment dire, qui peuvent être parfois un peu sombres et Jean-Charles fait des choses plus colorées, donc ça donne quelque chose d'assez heureux. Voilà. Mais non, je travaille pas dans la rue.
Vous connaissiez tous les deux avant cette exposition ou
pas
du tout?
Pas du tout. Non.
Parce que je trouve que ça va très bien en fait. Vos œuvres, je pense que vont très bien résonner ensemble dans la galerie.
Ah bah ça c'est derrière,
accroché
derrière,
aujourd'hui.
C'est déjà accroché. Ouais.
Là, les œuvres qui vont être présentées, c'est quoi comme format qui vont être présentées? C'est quoi les formats sur lesquels vous travaillez?
Bah, personnellement, là, j'ai plutôt des petits, des moyens formats que j'ai proposé à Daria, qui a fait une sélection pour que ça coïncide avec le thème urbain, quoi, en fait.
Donc là, vous, c'est du collage, de l'acrylique, du pochoir un petit peu.
Oui, il y a un peu de toutes sortes. Alors, effectivement, je ne travaille pas que sur le thème urbain, mais c'est quand même, il revient fréquemment avec toutes ses composantes. Enfin, donc, je suis sensible à tout ce qui est pochoir, street art. Donc, je l'intègre directement ou indirectement. Enfin, donc, souvent, on retrouve ça dans mon travail, quoi.
Comment vous avez découvert le street art?
Ah, c'est... j'ai beaucoup regardé la peinture moderne, contemporaine, et puis évidemment, lorsqu'on se balade dans Paris, des choses comme ça, il y a tout. Et des artistes, comme on en parlait juste avant, Banksy, des gens comme connus, ça, qui sont les plus connus, mais d'autres qui m'ont inspiré. Voilà.
Donc, voilà. Pourtant, vous n'êtes pas la génération, vous êtes la génération street art ou...
Non, du tout. Voilà, c'est pour ça. Mais bon... J'avais besoin. J'ai commencé, lorsque j'ai commencé la peinture, par de l'aquarelle. Alors, vous voyez, c'est plutôt...
Plus traditionnel.
Plus traditionnel, mais bon, j'ai très vite senti que je n'arrivais pas à m'exprimer avec ce médium, quoi. Donc, je suis passé à des choses de plus dynamiques, comme l'acrylique, quoi. Donc, et les collages.
Pour vous, c'est plutôt... du coup, c'est plutôt des artistes américains. On pense à Edgar Hooper. Pas mal.
Edward Hopper, il n'y a pas de doute.
Il y a un autre artiste que je ne connaissais pas, c'est Robert Cottingham.
Alors, Robert Cottingham, c'est un artiste américain, en effet, qui a eu son apogée dans les années 50-60, et qui, lui, ça rejoint un peu plus le tout début de mon travail, qui était moins sur le contre-jour, mais sur les ombres portées. Et Robert Cottingham, lui, il a travaillé là-dessus, c'est-à-dire sur des bâtiments, des enseignes et les ombres portées qu'il y a sur les murs. Donc ça a été, c'est pour ça que j'évoque Robert Cottingham, mais je dirais d'une façon générale tous les réalistes américains, en fait. Tout ça, c'est parti d'un voyage aux États-Unis que j'ai fait dans les années 80, c'était même l'année 1987, au siècle dernier, donc. Et je suis revenu avec plein de clichés de ce voyage où j'ai traversé les États-Unis d'est en ouest. Donc, pas mal de New York, ensuite je suis passé à Chicago, Minneapolis, San Francisco, Los Angeles. Et j'ai ramené plein d'images en photo. Et je ne savais pas trop quoi en faire. J'en ai fait d'abord des tirages. Et puis, ce n'était pas satisfaisant. La photo, je trouvais que ne rendait pas exactement l'esprit. Donc... Et puis j'avais un ami qui travaillait lui, déjà à cette époque à partir de ces photos. Et c'est comme ça que les choses ont pris. Moi, j'ai utilisé, je l'assume bien, la projection pour prévisualiser et avoir un dessin qui soit juste et précis. Et ça me permet d'avoir, de magnifier, je dirais. Là, c'est comme si on faisait du Photoshop, en fait, mais sur,
en réel,
en peinture, en fait. Donc au début, je faisais de l'acrylique, mais même de l'aquarelle aussi pendant une autre époque. Donc et puis maintenant, je fais de l'huile sur toile, depuis que j'ai découvert récemment, ça fait moins de 10 ans que je peins à l'huile, et j'adore ce médium. C'est un médium qui m'éclate parce qu'il a... Il y a des superpositions de couches, on peut travailler en aplat, en brossé, et puis utiliser toutes les formes de médium, de diluant, qui font qu'on a une grande variété de rendus. Enfin, ça m'éclate vraiment.
Là, pour Cottingham, on se pose la question parfois si c'est de la photo ou si c'est de la peinture, quoi.
Oui,
moi, j'ai regardé sur Internet ce matin. Au départ, j'arrivais pas à voir où était la peinture. En fait, je me suis dit, il a pris une photo d'un bâtiment et puis c'est beaucoup de lettrage en plus, beaucoup de couleurs.
Je trouve que ça rejoint mon métier de départ. Moi, j'étais publicitaire. Moi, j'ai bossé dans la pub pendant 20 ans. Et en fait, Robert Cottingham, il arrive et c'est l'intérêt de travailler à l'aplat, on peut avoir vraiment des choses qui deviennent très graphiques. Et en particulier, les ombres portées donnent des choses assez étonnantes. On ne gère pas forcément, on ne comprend pas tout dans les ombres projetées. Ça donne quelque chose d'assez... voilà, c'est le côté graphique qui à mon avis, que Robert Cottingham aussi a exploité. Et en traitant à la place, ce qui fait qu'on simplifie à l'extrême l'image et on obtient parfois plein de demi-tons qui sautent un petit peu et on obtient quelque chose qui devient presque comme ferait Andy Warhol, c'est-à-dire
de, un peu pop art, ouais.
Voilà, comme des lithos, comme des choses comme ça. Ouais.
Là, pour vous, Jean-Charles, c'est comment la peinture, elle est faite à la plat, elle est faite sur un chevalet, elle est faite.
Je travaille parfois sur chevalet, mais plus souvent à plat. Je me sens mieux sur une surface plane, sur des tréteaux, des choses comme ça. Donc là, ce que je présente aujourd'hui, c'est plutôt des petits formats. Alors effectivement, moi, quand j'entends Pierre parler, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je vais découvrir ses toiles tout à l'heure, donc ça me fait plaisir. Parce que l'huile me tend très bien aussi. Par contre, j'ai un petit peu d'appréhension quant à la technique. Quoi. Donc,
est-ce que c'est différent, la technique, entre l'huile et l'acrylique? C'est quoi, les temps de séchage, c'est
oui,
ça,
ben, il y a ça. L'acrylique, un gros intérêt, c'est de sécher rapidement. Mmh. Mais c'est aussi un handicap, parce que parfois la palette se retrouve toute sèche alors qu'on...
Je confirme, on gâche beaucoup de peinture.
Alors que l'huile est fait que on peut réactiver la palette à tout moment avec un peu de médium, et on peut l'utiliser diluer ou la charger, etc. Mais l'acrylique a plein d'intérêts aussi. Hein. Moi j'avais les mêmes réticences que Jean-Charles, à savoir de passer à l'huile, ça me terrorisait complètement. Je me disais, c'est pas pour moi, c'est un truc de où il faut avoir fait des études de malade, des trucs. Alors que on m'a offert un kit de peinture à l'huile à Noël, et je me suis lancé, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et là, au contraire, là, le fait de pouvoir mettre les doigts, de mettre n'importe quel... il y avait un côté très tactile, et moi qui, en tout cas, me parle beaucoup. Quoi. Donc,
J'allais dire enfantin, mais pas enfantin, c'est plus naturel, genre... comment on pourrait expliquer?
Oui, il y a une ergonomie... Il y a un côté plus peut-être charnel.
Il y a plus tribal, mais ça marche pas très bien. Mais ouais, voilà, c'est plus avec le corps, quoi.
Alors bon, ça c'est parce que moi j'aime bien parfois mettre les doigts dans la peinture. Parce que des fois le pinceau suffit pas, puis c'est bien de garder. Surtout, moi je trouve que dans la peinture c'est quand même important. C'est ce qui reste dans la peinture, c'est la gestuelle. En fait, la peinture elle ne fait que capter un geste, elle le fige. Et c'est ça c'est ce qui reste sur la toile qui est intéressant.
Je voulais justement parler en ce qui concerne par exemple les paysages urbains, où j'en ai fait quelques-uns, donc j'en ai peut-être tu as vu le dernier que je viens de faire.
Celui à l'américaine, c'est ça, c'est une rue, enfin j'en ai vu un, c'est Urban 8, c'est une rue américaine avec
des personnes.
Et puis un taxi new-yorkais, le taxi jaune, là,
alors,
c'est ça.
Alors c'était un des précédents, sur des formats qui font environ un mètre. Et il me semblait que j'arrivais à la limite de l'acrylique, ou des propriétés de l'acrylique pour réaliser ce type de travail, ou des paysages urbains. Il me semblait que l'huile, ce serait peut-être plus adapté pour ça. Je prends référence à certains artistes américains, entre autres, qui font des paysages urbains, genre Ben Aronson, je ne sais pas si tu connais, il travaille à l'huile.
Bien sûr. Aussi.
Là, je suis bluffé par son travail, qui, par ailleurs, un peu des points communs avec le tien, d'ailleurs. Autant que je puisse en juger.
Il y a Jeremy Mann aussi, qui est un artiste américain que je trouve extraordinaire. Et alors, lui, je regarde aussi un peu sa façon de bosser, parce qu'il utilise, il n'hésite pas à utiliser, par exemple, autre chose que le pinceau. Par exemple, il va utiliser le rouleau. Des rouleaux encreurs qu'on utilise en lithographie, qu'il va utiliser sur la toile directement. On obtient des choses un petit peu aléatoires, ou alors des grands spalteurs qui font qu'on... La matière est libre.
C'est quoi les spalteurs?
Spalteur, c'est un pinceau plat qu'on utilise pour... C'est intéressant d'utiliser des...
Pour faire des fonds, c'est ça, hein?
Voilà, oui, des outils qu'on peut utiliser, par exemple, pour le bricolage, qui sont intéressants d'exploiter aussi dans la peinture. Mais moi, j'utilise par exemple aussi des couteaux à peintre. Les couteaux à peintre, ce sont des vases, des espèces de grands couteaux, pour, ne serait-ce pour faire des traits droits avec, que je combine avec un pinceau. Et ça, ça me permet d'avoir. Parce que parfois, la main, elle a du mal à faire des traits tout droits. Donc là, le fait de l'utiliser, c'est. Puis c'est, là, pour le coup, c'est assez simple. C'est naturel.
Là, quand on voit vos peintures dans les années 80 et vos peintures aujourd'hui, il y a beaucoup plus de détails aujourd'hui. C'est quoi ? C'est de la confiance ? C'est un changement de technique ?
C'est étonnant que vous me disiez ça, parce que je suis convaincu du contraire. Je pense que je suis passé des...
On a une impression de détail, en tout cas. Il y a des peintures où on a vraiment l'impression, après, si on se rapproche, il n'y a pas de détails, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de détails dans la peinture en général, quoi, dans ce qu'on va voir. C'est beaucoup plus grand, je trouve. Une ouverture plus grande.
Alors, bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des grands formats. C'est vrai que mon format de prédilection minimum, c'est 100 par 100, c'est vraiment le
donc un mètre.
Ça, c'est un mètre par un mètre. C'est vraiment le format qui est le plus courant, qui est en plus le plus facile à mettre chez soi, parce qu'on a on a tous un mur qui peut le supporter. Mais moi, j'adore travailler en très grand. Donc la limite, c'est la taille de la toile qui rentre dans ma voiture, en fait. Donc c'est très pratique. Donc ça fait à 162 par 114. Ouais. Ça c'est un format que dans lequel je suis très à l'aise.
Donc si vous achetez un véhicule un peu plus grand, utilitaire, vous pourrez faire des toiles plus grandes.
Je suis équipé aussi. J'ai une remorque pour balader mes toiles, ce qui fait beaucoup rire Daria. Mais non. Moi, j'adore travailler en très grand parce que justement, le geste est ample et puis ça on permet d'oser, de mettre plein de matière. De toute façon, on se rattrape à tous les coups. C'est vrai que en plus, on s'en met plein les mirettes dans les grands formats. Mais après, bon, le problème du grand format, c'est qu'il faut,
le vendre,
le stocker, le vendre. Mais d'une façon générale, les galeries sont amateurs de grand format parce qu'il y a une clientèle, peut-être les clientèles aisées, qui
ont des grands murs.
Des grands murs, des grandes maisons. Oui, c'est vrai que ça... Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup le grand format.
Là, pour vous, Jean-Charles, la peinture à la bombe, c'est venu naturellement. Justement, il y a une gestuelle aussi. On parle de la gestuelle, mais dans le graffiti, il y a vraiment une gestuelle. Est-ce que vous l'utilisez aussi pour faire des petits traits fins ou uniquement pour faire des aplats de couleurs ou des pochoirs ?
Je ne suis pas vraiment un graffeur, comme je vois. D'ailleurs, je suis bluffé à chaque fois que je les vois travailler sur des vidéos, des choses comme ça. Mais j'utilise la bombe pour, entre autres... Parce que, bien sûr, comme je fais un peu de pochoir de temps en temps, donc c'est indispensable de voir la bombe. Mais aussi pour les aplats de couleurs, parce que ça donne un aplat très propre, très net. Et je peux le confronter à d'autres choses, de la texture, comme disait Pierre, par exemple, avec divers pinceaux, voire je peux travailler avec des rouleaux. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc ça donne une texture dans la peinture, ou alors les collages. Et je peux confronter, par exemple, à de l'aplat par la bombe. Donc, j'utilise un peu ces techniques, tous ces outils qui peuvent donner de la variété dans la création, quoi, en fait.
Daria, pourquoi avoir mis ces deux artistes en commun ? C'était un choix naturel, ça s'est calé par rapport aux dates de disponibilité. C'était pourquoi, du coup, les deux ensemble ?
Tu me demandes de
conceptualiser un peu le...
Oui, c'est les cuisines internes, un petit peu.
Ah, c'est les secrets de fabrication, c'est comme ça ?
Un peu.
Comment tu les as rencontrés ?
Mais avec Jean-Charles...
Il y avait une expo à Marny, c'est ça ?
Peut-être vu l'expo. Il y avait à Marny, mais je ne suis pas allée, je ne sais pas c'était quelle année. C'était... Ça fait déjà un moment.
Ouais, 2-3 ans à peu près. Ouais.
Mais on a déjà... tu sais, je fais des petites sélections des artistes locaux pour les braderies. Il y a des braderies de commerçants en automne et printemps. Et donc, pour une des braderies, j'ai invité Jean-Charles, et donc avec qui on a commencé déjà à discuter un petit peu, voire ensemble. Et donc, et pour Pierre, c'était... En fait, j'avais un artiste qui abandonnait l'expo de juillet.
D'accord.
Ouais, donc, au dernier moment, elle a dit qu'elle avait une autre proposition à Bordeaux avec la maison Pierre Cardin. Et voilà, il faut y aller absolument. N'importe qu'est-ce qu'il y avait des autres obligations. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on peut dire ?
J'apprends que je suis un bouche-trou.
Des fois, c'est des bonnes opportunités.
Et donc, j'ai commencé à chercher vraiment parce qu'il y avait très, très peu de temps. Et elle restait un mois, je pense qu'il y a un mois que je t'ai contacté. Ouais. Hein. Et donc, il y a une autre personne qui s'occupe aussi des artistes de street art à Compiègne, c'est Vincent Kiefer. Ouais. Hein. Donc, je lui ai contacté.
Qui fait Artefact, c'est ça ?
Oui, ouais, exact. Et donc, il m'a conseillé de regarder le travail de Pierre. Donc, et je me suis dit que c'est ce que exactement avec la thématique. Donc, ça va faire une belle expo. Ce qui le fait.
Là, justement, Vincent, par exemple, a proposé à Clément May de faire un pochoir, enfin, une peinture à l'Hôtel Mercure, très grand format.
Une fresque.
Est-ce que ça vous plairait de bosser directement sur un mur plutôt que sur une toile? Si on vous faisait une commande comme ça, est-ce que ça serait déjà possible pour vous?
Alors, moi, pourquoi pas? Sauf que j'ai une vraie réticence à travailler sur un mur, non pas que... par rapport à une toile, c'est le fait que, comment dire, j'aime bien l'idée que ça soit un support. Parce qu'on m'a souvent demandé, par exemple, de faire des fresques chez les gens ou les choses comme ça. Mais moi, j'aime bien le côté pérenne de la peinture. Alors qu'une fresque, on imagine, on va y vivre un temps, puis après, on va vendre l'appartement, et puis on va recouvrir la fresque. Moi, j'aime bien que l'idée... Donc, je préfère proposer un vrai support toilé, qu'on puisse, à la limite, rouler ou encadrer ou déplacer. Mais par contre, moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est utiliser le grave dans ma peinture. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé, j'ai pas mal de quelques sujets comme ça, où je trouve, puisque moi, mon sujet, c'est les passages, l'idée d'aller vers la lumière. Et régulièrement, j'ai des graphes sur les murs et ils apparaissent dans mes peintures. Et j'aime bien les figer, parce que je pense que c'est quelque chose qui dure un temps, parce que ensuite ça va être recouvert ou pas, ou ça va évoluer. Donc j'aime bien fixer les choses.
Après, aujourd'hui, si on retrouve des trucs très anciens, genre les mosaïques, les archéologues peuvent les retrouver 500 ans, 600 ans après.
Hein. En grattant les murs. Hein.
Là, des fois, c'est des belles surprises. Il y avait ça, je crois, aux États-Unis, enfin en Angleterre peut-être. Je crois qu'ils ont retrouvé des dessins des Sex Pistols dans leur ancienne maison. En fait, ils avaient juste retapissé avec du papier peint. Ah, et donc, quand ils ont détapissé, ils ont retrouvé des dessins des Sex Pistols.
Collecteur, quoi.
C'est ça. Voilà. Donc, ça peut être.
J'aurais un peu la même approche que Pierre quant à la réalisation de fresques. Déjà, bon, techniquement, je n'ai jamais fait, donc je ne sais pas le matériau utilisé principalement. En plus, je pense que c'est quand même des aplats très propres pour... je vois ce qu'a fait Clément. Ouais. C'est très bien.
Mais là, ça peut être de votre style, du collage. Demain, on vous propose un resto ou je ne sais pas.
Du collage, c'est pour la pérennité dans le temps, ça risque de...
De mal vieillir.
En revanche, la réflexion que tu devais, Pierre, sur les éléments graphiques que tu voyais dans les rues, des choses comme ça, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup ça aussi. En particulier, ça m'arrive sur des toiles. D'ailleurs, il y en a une qui est à la galerie, là. C'est les graffitis qu'on peut retrouver sur les murs.
Mais oui.
Donc, je prends des collages. Entre autres, ce qui m'avait frappé, c'était les graffitis qu'il y avait sur le mur de Berlin, par exemple. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Surtout, ça donne une impression de temps. La superposition de ces graffitis donne le nombre de mois, d'années où les gens sont passés. Et ça vaut le coup de l'intégrer dans une
œuvre. Ouais. On va écouter un extrait musical et on se retrouve juste après. Je vous propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle Freud. C'est La Récré et La Récré seront en concert. Ça sera à Compiègne et ça sera aux Bibliothèques Saint-Corneille. Ça sera en septembre et ça sera proposé par Le Temps qui Fuzz. Donc La Récré avec le titre Freud.
toi.
La récré, ils seront donc en concert, ils sont deux, il y a notamment un des membres de Forever Pavo, ils seront en concert en septembre, ça sera à la bibliothèque Saint-Corneille. Toujours en compagnie de Daria de la Galerie de l'Est, de Pierre Riollet et de Jean-Charles Toulec pour parler de cette exposition qui se déroule jusque début août, le 10 août, le 12 août.
10 août.
10 août, pardon. Et l'expo, donc le vernissage, c'est ce soir à 17h.
Vernissage, c'est ce soir de 17h à 20h.
Ok, donc. Du coup, vous allez revenir ensuite, parce que là, si les gens ne peuvent pas venir en un jeudi soir faire un vernissage, est-ce qu'ils vont pouvoir vous rencontrer
Moi, je reviens que pour les ventes.
Donc, il faut acheter.
Non, mais moi, il n'y a pas de souci.
Moi, vous êtes
en plus, je suis proche.
C'est ça. Voilà,
donc... Non, je blague. Oui, j'en ferai un petit tour quand même pour accueillir le public. Hein.
C'est quoi les questions qu'en général, ils vous posent les gens qui viennent voir vos œuvres? Ils vous parlent de technique, ils vous parlent de vos ressentis, de quoi ils parlent?
Parfois de technique, parfois de ressenti ou de ce que leur évoque l'œuvre. Et moi, souvent, je suis assez déconcerté parce que c'est pas, des fois pas du tout mon propos ou du moins je le voyais pas comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'approprient quelque chose et puis en fonction de leur vécu, leur sensibilité, voilà. Ressentent quelque chose de différent de ce que j'ai peut-être même voulu exprimer.
Et pour vous, Pierre ?
Alors, moi, je suis toujours très surpris aussi de la façon dont les œuvres interagissent avec ceux qui les regardent. Ça, c'est un truc qui me subjugue complètement. Et je fais beaucoup d'expos, beaucoup de salons, donc je vois beaucoup de monde. Et j'ai des réactions qui sont étonnantes, vraiment épatantes. Une fois, j'avais... Il y avait un client qui se met à côté de moi, face à une toile. Alors, il faut dire que la toile, elle représentait comme si on était sous un passage avec au fond la mer. Et puis, il se met à côté de moi et il me dit « À trois, on sort et on court ». Alors là, moi, j'étais subjugué. Il s'était projeté gamin, tout petit, à la plage. Et ça l'avait fait revenir complètement en enfance. Moi, c'était un truc assez drôle. Et puis, une autre fois, j'avais eu aussi une drôle d'histoire où je présente un tableau qui, à l'époque, j'avais utilisé ma fille comme mannequin aux États-Unis. Je l'avais fait poser dans un bar. Et puis, j'avais mis la mère derrière. Enfin, un truc sympa. Et puis, je commence à expliquer ça à une cliente en lui disant, ben voilà, j'étais aux États-Unis avec ma fille, etc. Elle me dit, mais pas du tout. Ce tableau, c'est moi. Et là, c'est pas du tout aux États-Unis, c'est en Italie. Et c'est un moment très, très particulier parce que je venais d'avoir une rupture amoureuse, etc. Et donc, et j'ai senti que je fallait pas que j'en dise plus parce que. Donc, c'est des choses qui sont.
Comme quoi, les apéros des vernissages, ça marche. Hein.
Ah ouais, c'est pour ça qu'on fait de la peinture, c'est pour qu'il y ait une interaction avec
ouais,
le public.
Ça crée une histoire chez aussi les gens.
Bien
ouais.
sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme surprise ce soir là, on verra. Hein.
Il y a des gens qui, quand ils n'aiment pas, ils vous le disent ou est-ce que quand on fait une expo, ouais.
Oui, ça m'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Parce que des personnes, enfin, des gens qui n'aiment pas mon style ou des choses comme ça. Une fois, une personne me dit ce que vous faites, j'aime pas du tout, mais par contre, ça sort de l'ordinaire. Donc, merci, madame.
C'est bien.
Mais au moins, je préfère qu'on dise des choses franches.
Oui, c'est de l'art, de toute façon, ça touche.
Exact.
Ça touche pas, ouais,
de toute façon, je crois qu'il faut. Moi, je ne cherche pas le consensus. Bon, peut-être certaines toiles sont plus consensuelles que d'autres, mais moi, je ne cherche pas forcément. Fatalement, ça ne plaira pas forcément à tous les gens.
Là, c'est des choses, je trouve, assez dans l'air du temps, en fait, hein, ce que vous proposez. Je trouve que c'est des choses qu'on... Là, notamment chez Art Up, c'était le salon Art Up à Lille. Ouais. Du coup, on voit beaucoup de street art, beaucoup de choses urbaines. En fait, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. Vous le ressentez ou pas du tout? Parce que vous, c'est plus une période années 50, normalement, sur ce style-là.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que le street art a pris un essor un peu dingue depuis ces 10 dernières années. On voit que ça sur les salons, etc. Bon, ce qui est assez bizarre, d'ailleurs, parce que pour moi, le street art se passe plutôt dehors, dans la rue. Mais beaucoup d'artistes, je dirais... parce qu'il y a de la demande et vont changer de support, vont faire des interventions sur des supports qui peuvent être mis chez soi, quoi. Donc ils vont trouver soit des faux murs, soit des briques, soit des etc. pour qu'on puisse mettre les choses comme ça. Moi, je trouve que c'est évidemment, c'est comme le hip-hop, ce sont des mouvements qui sont des mouvements de fond qui existent, qui sont très dynamiques et qui plaisent en plus à une population de notre époque. Donc après, c'est vrai qu'on peut l'exploiter. Moi, j'aime bien. Comme je disais, mettre du street art dans mes toiles. Ouais, mais pas pour autant faire des graphes.
Dans le sens street art, c'est que c'est des mouvements. En fait, je parlais du coup, il y a street art, il y a la technique du street art. Il y a aussi le fait que c'est des mouvements de rue, c'est de la rue, c'est de l'urbain. C'est pas la peinture hollandaise des années 1700 avec des personnages ou ce genre de choses, quoi.
Oui, oui, non, mais moi j'aime bien l'idée de capturer l'instant et capturer une époque. S'il se passe un truc
ouais, je comprends.
Dans mon image, c'est juste, c'est le moment, quoi, que j'aime bien capturer.
Ce que je voudrais rajouter, c'est que on est malgré tout plus ou moins orienté, on n'est pas insensible à tout ce qui se passe, mais je pense qu'il faut garder essayer d'être le plus sincère dans sa peinture et pas totalement vouloir être absolument dans l'air du temps. Si on n'est pas vraiment... c'est un peu dans le même ce que tu dis, c'est que j'incorpore ces éléments-là, mais malgré tout, j'essaie de laisser place à la peinture. D'ailleurs, dans les œuvres que j'ai exposées, il y a des différence, je sais pas, où on voit par exemple les scènes de plage. Mmh. Là, c'est plus axé sur la lumière, donc la peinture un peu plus traditionnelle, et d'autres juste à côté qui sont vraiment basés avec des pochoirs, des contrastes d'éléments hétéroclites, des choses comme ça. Donc, j'aime bien un peu ouvrir tous les champs possibles. D'ailleurs, je pense qu'on cherche tout le temps, mais en particulier, moi, c'est mon cas. Mais bon, donc, on n'est pas insensible à ça. Enfin, je ne le suis pas. J'utilise, mais ce n'est pas une fin en soi pour moi.
Et de la musique, ça serait en musique. On pourrait mettre votre peinture en musique. Ça serait quel style de musique que vous mettrez en peinture?
Ouais, bien. Effectivement, moi, si lorsque deux fois je peins, j'écoute quand même des musiques du rock des années des Led Zeppelin à Pink Floyd, ou en passant par Red Hot Chili Peppers, des choses comme ça. Voilà.
Et pour vous?
Moi, c'est un peu moins rock'n'roll, c'est plus jazz et.
Les peintures s'en ressortent. Hein.
Et surtout, moi, je suis un fan absolu de Bach, mais en classique, moi, je suis capable de me shooter au Bach.
Là, dans les peintures, on ressent moins Bach. Mais c'est vrai que le jazz, il y avait un côté assez jazz dans les créations.
Mais j'écoute, ouais, je peins en musique, moi, non-stop, ouais. Ou au moins en écoutant la radio aussi. Pas graphite, mais ça ne saurait tarder.
Avec plaisir. Et justement, le fait de que ça soit en musique, de la création soit en musique ou avec quelqu'un qui parle, ça vous oriente dans... Par exemple, quand on lit un livre, on peut pas écouter c'est très compliqué d'écouter de la musique ou ce genre de choses. Est-ce que vous, le fait d'écouter de la musique et de peindre, ça va,
ça passe... Ça m'arrive parfois, c'est de mettre... je démarre la peinture, de mettre un CD et après de... m'apercevoir qu'il est terminé. Et j'ai pas écouté du tout le...
D'accord, il est là en
fond sonore. Ah là, je suis complètement... Ouais. Alors là, c'est pas tout le temps comme ça. Mais ces périodes-là sont vraiment intéressantes parce que je pense que c'est là qu'on est plus créatif. Voilà. Mais ça dure pas, hélas. Je sais pas, mais moi, je voudrais bien que ça dure plusieurs heures comme ça. Mais des fois, j'ai une heure de bien, puis après...
Alors moi, c'est vrai aussi, pour me mettre en route, par exemple, j'aime bien prendre un morceau qui me plaît. Voilà, c'est une façon de me conditionner pour me... Parce que moi, je peins toute la journée, non-stop, du matin au soir, ouais. même le week-end. Mais voilà, pour la mise en route, c'est intéressant d'avoir un morceau stimulant. Et c'est vrai qu'il y a une interaction entre la musique et le... Oui, bien sûr. Ah oui, je trouve que ça... Il y a de l'élan, il y a des moments de plus calme, on passe à autre chose. Mais...
Le fait que tu peignes à l'huile te permet aussi d'avoir du temps, enfin un peu plus de temps, et d'avoir des phases comme ça. L'acrylique est un petit peu plus compliqué.
Conditionner un peu la durée. Hein.
C'est vrai que l'acrylique, on est conditionné par le séchage, qui peut interagir là aussi.
Et pour les musiciens, souvent ils écrivent, alors soit ils peuvent prendre de la drogue ou ce genre de choses dans les années 70. Est-ce que vous avez déjà fait des peintures avec, alors pas forcément de la drogue, hein, peut-être, hein, mais genre, est-ce que quand vous buvez l'apéro, est-ce qu'après ensuite vous pouvez aller peindre? Est-ce que ça change votre façon de peindre ou pas du tout?
Ah oui, ça fait du bien, oui.
Oui, ça change.
Ouais, on ressent plus les choses. Hein. C'est comment c'est... Est-ce que du coup, c'est pareil, vous qui peignez toute la journée, est-ce que le fait de peindre après le petit déjeuner ou de peindre après un apéro à 18h, est-ce que c'est le même final sur la peinture?
Je pense que de toute façon, il y a une désinhibition liée à la prise de substances ou de trucs qui interagit sur la toile. Hein. Je pense qu'on a... C'est juste que... On peut avoir plus d'audace parfois, et c'est souvent ce qu'on cherche, hein, d'avoir l'audace de se lâcher sur un truc. Alors bon, est-ce qu'il faut avoir un petit coup dans le nez pour bien peindre? Faut se méfier aussi, pas partir en sucette.
Il y avait des grands écrivains qui utilisaient de l'absinthe ou qui utilisaient l'opium à l'époque. Enfin voilà, ça a toujours aidé à la création, et on sait qu'il y a des chefs-d'œuvre qui ont été créés pas forcément dans les conditions normales de vie, quoi.
Donc, oui, oui. Mais sans aller jusque-là, mais là, je te rejoins malgré tout. Hein. Y a des moments dans la journée ou dans la semaine, dans le travail, ou des périodes où on se lâche bien, on sent bien les choses. On fait une pause, par exemple, l'après-midi, on va revenir, et ça va être catastrophique. Et je ne sais pas l'expliquer. Bon, voilà, c'est que ça ne va pas. Donc, je ne suis plus du tout dans le coup. Donc, à ce moment-là, vaut mieux aller faire un footing, et puis...
Ça irait la tête, quoi.
Voilà, ça irait, puis on reviendra le lendemain. Et des fois, quelque chose qui est mal parti la veille au soir, le lendemain matin, on revoit totalement les choses. Avant de dire qu'une toile est terminée, il faut laisser un petit peu de... Moi, ça, c'est mon cas. Hein. Laisser un petit peu de recul et ne pas la regarder pendant une journée ou deux et on revient dessus. Là, on voit si... Des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Et alors, au moment où on la réalise, on pense, on est dedans complètement. Des fois, on est un petit peu pas objectif par rapport à son propre travail, quoi, en fait.
Pierre, c'est pareil pour vous ?
Oui, oui, c'est pareil. Moi, c'est toujours compliqué de savoir quand est-ce qu'une toile, il faut l'arrêter.
Hein.
C'est un moment qui est un peu... Moi, je m'aperçois que souvent, c'est lorsque on rajoute une touche et on s'aperçoit qu'elle est inutile. Et là, bon, on se dit, allez... faut laisser le truc en état, parce que c'est vrai que après ça peut être superflu et nuire.
Absolument, je suis d'accord.
Vous travaillez tous les deux une œuvre une par une ou vous courez plusieurs lièvres à la fois ?
Bon, moi, personnellement, je travaille une par une. Je sais que je me sens pas capable de travailler plusieurs œuvres à la fois, comme j'ai vu certains peintres. Je prends l'exemple d'un peintre que j'aime bien, contemporain, Robert Combas, par exemple, qui il est interviewé, continue à peindre, il refait une retouche sur une autre toile. Je préfère rester, ce que je suis capable de faire, rester sur une œuvre et voilà. Quitte parfois à la laisser de côté et passer sur une autre. Mais travailler sur plusieurs œuvres en même temps, non, ça ne me va pas. Ou alors, il faudrait que ce soit quelque chose de très figuratif, où il n'y a pas où on ne fait pas appel à des mécanismes de création qui sont, que chacun peut exploiter en fonction de ses propres sensations. Donc, je préfère, en tout cas pour certaines toiles, je ne serais pas capable de faire deux toiles en même temps. Par contre, l'une à la suite, et souvent je travaille par paire, où je fais une toile, une œuvre sur un thème, et très vite, le lendemain ou le surlendemain, je peux refaire dans un thème équivalent, travailler dans le même principe. Quoi.
C'est le jumeau maléfique de la première œuvre.
Peut-être, exact.
Et pour vous ?
Moi, j'ai du mal à... Enfin, ce que je fais souvent, c'est que je prépare souvent mes supports. Donc là, parfois, je peux préparer 10 supports, à savoir, je mets une couche de teinte. C'est souvent de la peinture à l'huile, plutôt ocre rouge, qui est un peu ma base. Et donc là, je peux en faire travailler. Mais ça, c'est pas très créatif, puisque c'est un coup de spalter sur toute la de préparation. Par contre, il m'arrive de laisser aussi, de mettre de côté une pièce sur laquelle je bloque ou ça me lasse un peu, et puis de revenir ensuite dessus plus tard. Mais en général, j'en démarre une, il faut que je la mène au bout quand même, globalement, ou presque au bout. Et ensuite, je peux finaliser et passer à une autre. Au moment où j'en peux plus, oui, il y a des moments où on n'a plus envie de la voir, il faut la cacher, je suis d'accord. Et puis quand on la redécouvre avec des yeux neufs, c'est plus stimulant, on voit ce qu'il faut faire.
Chez vous, vous avez des œuvres de vous accrochées au mur ou des œuvres d'autres artistes ? Est-ce que vous avez des...
C'est un doux mélange.
Ouais. Chez moi, quelques artistes, mais principalement de moi quand même.
Ça va, c'est facile de voir ces œuvres régulièrement. On ne se dit pas « Ah, j'aurais peut-être dû changer ça » ou voir les imperfections qu'on ressent nous-mêmes, non ? Non ?
Moi, personnellement, quand une œuvre est terminée, j'ai l'impression, elle m'appartient vraiment. C'est au moment où je la fais ou où elle vient d'être terminée. Si je passe après, je passe à une autre œuvre, elle est un petit peu écartée et je passe sur autre chose. Et c'est celle-ci qui me la présente, qui m'interpelle, qui m'intéresse, quoi. Maintenant, j'en ai quelques-unes chez moi, bien sûr. Je regarde ou je passe devant sans plus les regarder non plus.
Celui de la déco dans la maison, quoi.
Ça, des fois, ouais. Mais enfin, ouais, par moments, c'est très... où on a des moments de réflexion, où on peut se poser un peu. Et, tiens, regarde.
Et c'est qui les autres artistes qui sont exposés chez vous?
Ben, c'est quelques artistes. J'en ai une toile de... Comment ça s'appelle? FCG, peintre. Après, une amie qui a fait de la photo... Tali Bévernet, c'est une photo que je lui avais fait acquisition à elle. Et puis un peintre où j'avais eu un contact avec un peintre marocain, où on s'était par Facebook et on s'était envoyé mutuellement une œuvre. Quoi. Donc,
en échange ?
En échange, oui. Je trouvais ça sympa.
Un troc.
Voilà, oui. Ouais. Un petit format, on va dire, mais bon.
Ouais, j'imagine avec la poste, direction.
Ouais, ouais. Mais bon, j'ai pas de combat, j'ai pas de.
Ça va arriver.
J'aimerais bien.
Et pour vous, Pierre, à la maison, les peintures. Alors,
sur les murs, chez moi, j'ai rarement des œuvres récentes. En général, c'est plutôt justement des travaux anciens. Des aquarelles ou des pastels.
Ah oui,
parce que j'ai des aquarelles pastels que je faisais à une époque. Alors que pour moi, c'est de l'archéologie parce que c'est des trucs que je fais plus du tout. Ouais. Mais j'ai toujours plaisir à les voir des trucs que qui sont d'une autre époque. Et puis sinon, oui, en effet, moi j'achète parfois, quand j'ai des coups de cœur aussi sur les salons, des artistes qui me plaisent. Parfois, j'ai fait aussi des trocs aussi avec certains. Donc j'aime bien avoir des... Ça peut être parfois des petits travaux. J'en ai pas mal dans mon studio qui sont des petits trocs qu'on avait fait avec des artistes. J'aime bien les avoir à côté de moi, etc. Enfin, on est déjà très présents sur Facebook aussi. Moi, Facebook, pour ça, était extraordinaire parce que ça permet d'avoir un réseau d'artistes et d'échanges d'art que je trouve extraordinaire. C'est le côté incroyable de Facebook, c'est qu'on peut ici faire le réseau qu'on souhaite, en fait, vraiment.
C'est vrai.
Moi, ça a toujours existé, les regroupements d'artistes, même de l'époque de Rodin. Il y avait justement ce club-là, je ne sais plus comment il s'appelait, ceux qui s'étaient fait refuser.
Il y a toujours eu des écoles, c'est vrai, où tout le monde s'est retrouvé. Mais là,
c'est une facilité, évidemment.
Une interactivité incroyable.
Vous avez essayé d'autres supports que la peinture? Est-ce que vous avez essayé justement la terre, la matière, le modelage?
Oui, moi j'en ai fait à l'école, mais j'en fais plus beaucoup aujourd'hui, mais j'aime bien.
Sur de la 3D, quoi, en gros?
J'aime bien le volume, oui.
J'ai fait, alors c'est complètement différent, mais j'ai fait un peu de poterie, un peu de tournage dans une autre période de mon existence où j'ai appris à faire tourner des pots, quoi, en fait, et cuire de ces pots, dans un contexte plus, on va dire, médiéval, où c'était une petite période de ma vie, quoi.
Daria, quand on est galeriste, est-ce qu'on a envie de faire de la peinture? Est-ce qu'on a envie de faire... Est-ce que toi, t'as...
Surtout pas. Non, mais avant de commencer la galerie, je prenais quelques cours de peinture aussi. Mais là, plus je vois des artistes professionnels, moins j'ai envie de faire quelque chose par moi-même. Parce que je vois de plus en plus cette différence de niveau technique. Donc non, non. Okay. Là, je n'y prends plus de façon.
Pourtant, c'est le moment de mettre une œuvre justement dans la galerie, de dire « Ah, c'est un artiste pas connu, très, très abstrait. » Est-ce que vous cachez des messages dans vos œuvres? Est-ce qu'il y a des choses que les spectateurs, enfin les spectateurs, les visiteurs ne peuvent pas comprendre ou ne peuvent pas voir?
Oui.
dans chaque œuvre ou...
Non, pas dans chaque œuvre, mais par moment, oui, c'est arrivé.
Moi, ça m'arrive aussi. J'ai un truc, mais il ne faut pas le dire.
C'est pour que les auditeurs viennent voir l'expo et qu'ils arrivent à voir ce truc-là.
Je pense que certains archéologistes découvriront au rayon X des choses.
Ah d'accord, des choses qui sont sous la peinture, quoi.
Pas sous... Ouais, c'est invisible. Hein, mais c'est très... c'est un délire.
C'est des messages cachés, d'accord. Okay. On essaiera de regarder l'étoile par transparence.
Je crois que ça passera court, hein, donc
des fois, il y a des messages qui sont même visibles, mais pas forcément compréhensibles. Mais aussi, il y a des j'ai pas souvent, enfin, c'est pas mon propos prioritaire de faire passer un message dans une toile, mais ça arrive que j'en mette. Et ça, je peux pas. Au moment où je vais faire une toile, je sais l'évolution et ah, dit tiens, j'ai quelque chose à mettre par un collage, par la confrontation de certaines choses. Voilà. Donc là, par contre, les messages sont peut-être bien visibles et compréhensibles.
Pierre Riollet et Jean-Pierre Toulec, Jean-Charles, pardon, Jean-Charles Toulec, on vous retrouve ce soir à la Galerie de l'Est. On rappelle l'adresse de la Galerie de l'Est, c'est dans la rue...
Rue des Deux Meuliers.
C'est dans l'ancienne librairie des signes, pour les gens qui ont connu la librairie des signes à cette époque-là.
L'ancienne poste, pour ceux qui ont connu c'est la
Je crois que c'est l'autre côté, c'était là, c'était cet endroit-là
okay, ouais. Oui,
ouais. Ouais, c'est la rue de la Poste pour les plus anciens. Ce soir, c'est à partir de 17h.
Oui, on commence à 17h.
Là, les tarifs pour vos œuvres, c'est quoi la fourchette de prix pour acheter vos œuvres
D'ailleurs.
Non, alors, moi, j'ai des. Enfin, on présente là, il y a tous les tarifs, hein, c'est vrai que ça va.
Oui, ça dépend souvent de taille.
Oui, bien sûr.
Hein. Et même du support, puisqu'il y a des reproductions qui sont accessibles.
Voilà.
Du coup, tu as refait des reproductions.
Pierre a amené une belle collection, une centaine des œuvres en reproduction. Donc, en plus des 13 pièces originales qui sont présentées
là, qui sont
sur les murs.
150 et 180 euros.
Et voilà, il y a les reproductions.
Ça, c'est l'entrée de gamme. Et puis ensuite, ça va très vite, très haut.
Oui. Les peintures originales de Pierre, ça commence 1800 euros. Pour
des 1 mètre par 1 mètre, c'est ça?
Pour 80 sur 80. Mmh. Et on va jusqu'à 6000 euros presque pour une très grande 1 mètre 60 sur 1 mètre 30. Voilà, pour Jean-Charles, les tarifs sont modestes.
Plus accessibles.
Plus accessibles, merci. Donc, et après, ça dépend aussi de médium, parce qu'il y a les œuvres sur papier, il y a les œuvres sur toile, donc il y a déjà cette différence-là. Pour les œuvres sur papier, on retrouve les prix qui commencent à 250 euros, et pour les toiles... Mais là, comme on a déjà dit, Jean-Charles travaille plutôt avec les petits ou moyens formats. Donc là, le plus grand format, c'est 80 sur 80. Donc le plus petit pour Pierre, c'est le plus grand pour Jean-Charles. Et là, on est jusqu'à 800 euros.
Et là, aujourd'hui, les collectionneurs qui vous ont acheté, vous avez déjà vu vos œuvres en situation dans les maisons? Vous avez des...
Ah oui, moi ouais. Je réclame à chaque personne qui m'a acheté, qui m'envoie un petit cliché de l'œuvre chez elle. Oui. Moi, ça m'importe parce que j'ai à cœur de savoir où sont mes petits.
Donc, il y a un suivi.
Ah oui, c'est quand même ces enfants qu'on laisse partir comme ça, donc ça me plaît bien de savoir où est-ce qu'ils sont, ça me rassure.
Donc vous tenez un petit carnet avec les noms des acheteurs?
Oh non. J'ai des listings, mais je garde des photos que je collectionne, même que je présente sur mes sites, sur mes pages Facebook, entre autres artistes. Donc là, ça me permet de savoir qu'ils sont en bonne place, en bonne main.
Et pour vous, Jean-Charles?
Oui, ça m'arrive de voir aussi, mais bah, c'est certainement moins souvent. Et parce que des œuvres, je ne sais pas où ils sont partis, par exemple sur d'autres, par d'autres galeries, des choses comme ça. Donc je ne connais pas forcément les acheteurs.
Là, vous avez beaucoup d'œuvres qui sont dans des galeries à droite à gauche ou?
Moi, j'ai des œuvres qui sont un peu partout. J'en ai aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon. Mais j'en ai aussi dans d'autres galeries, oui, puisque je travaille avec 5-6 galeries.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et on vous souhaite une très belle exposition. On rappelle, on rappelle les dates. Je te laisse, Daria, redonner les dates. Donc là, c'est jusqu'au 10 août.
L'exposition Urban Vibes avec Pierre Riollet et Jean-Charles Toulec, ça commence ce soir à 17h, 11 juillet, et ça va durer jusqu'à samedi 10 août.
Et donc ce soir, en présence des artistes pour le vernissage. Exactement. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à
merci
nous.
Bien. Merci
si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera rediffusable en podcast. Et il y a également la page Facebook, vous pouvez voir tout ça en vidéo. On vous souhaite un bon après-midi, on se retrouve tout à l'heure à 17h. À 17h, on sera en compagnie du Festival Celebration Day, jusque 19h, 2h de programme. Et en attendant, je vous laisse avec un morceau qui va rentrer en prog, qui s'appelle Ludwig von 88. Et c'est un nouveau morceau, ça s'appelle En avant dans le mur.
Sur Soyons-nous inconscients pour ne pas soutenir tous ces grands présidents si prompts à nous servir. Serions-nous des chrétiens qui pigent rien à la vie pour oser nous dresser contre l'économie. Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le grand capital. N'avons-nous point d'éthique pour exiger le SMIC pour un boulot de chien abattu sous la trique, privant nos gras patrons qui galèrent comme des dingues à redresser la nation et l'économie qu'ils flinguent. Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le gros capital. Serions-nous des malfrats pour partir aux Seychelles avec le RSA qui nous tombe du ciel? Serions-nous des crétins pour payer nos impôts plutôt que d'aller fleurir les paradis fiscaux? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le gros capital. Travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie. L'avenir nous tend la main, nous marchons plein d'espoir. Petit mouton crédule qu'on mène à l'abattoir. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes. L'esclavage rend heureux.